Qui peut prédire son dernier jour? Je me souviens avoir appris une chanson qui dit « Au clocher de ton village sonne fort le glas dans la nuit, l'oiseau s'ennuie dans sa cage, ce soir la mort t'a choisi. » Les événements de ce chant ne sont peut-être pas cités dans le bon ordre, mais là n'est pas l'important. Des jeunes tout joyeux vont à une fête ou en reviennent et puis tout à coup c'est l'accident. Un tel drame est particulièrement douloureux parce que tellement brusque, brutal et totalement inattendu. Un texte de l'Ancien Testament dit « L'homme ne connaît pas plus son heure que les poissons qui sont pris au filet néfaste ou que les oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les humains sont enlacés à l'heure néfaste qui s'abat sur eux tout à coup. » Dans le livre de Daniel, la fin du grand empire babylonien tient en une toute petite phrase qui se trouve à la fin du chapitre 5. Je la lis. « Mais, dans la même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. » Verset 30. D'après les historiens grecs Hérodote et Xénophon, la prise de Babylone s'est déroulée comme suit. La ville était traversée du nord au sud par un fleuve, l'Euphrate. L'armée mère des Perses, qui fait le siège de la ville, se scinde en deux. Un corps d'observation établit son campement au sud et le reste des soldats s'en va au nord de la ville où ils se font terrassiers et commencent des travaux de dérivation. Ils construisent un barrage et agrandissent le réseau de canaux qui amenaient l'eau du fleuve à des réservoirs à moitié vides. Les travaux étant presque terminés, le général Mède Gubaru, qui dirigeait les opérations, attend que les Babyloniens célèbrent une de leurs grandes fêtes pour dévier le cours de l'Euphrate et mettre à sec la partie qui traverse Babylone. En l'espace de quelques heures, c'est chose faite, et à la tombée de la nuit, les soldats s'engagent dans le lit du fleuve et se glissent le long des quais. Si les assiégés avaient été sur leur garde, ils auraient pu faire du tir au pigeon sur les envahisseurs qui étaient coincés dans le lit du fleuve. Le général Gubaru le savait très bien, mais il comptait sur la négligence des défenseurs de la ville et son hardiesse fut récompensée. Les soldats trouvent les murs désertés et les portes de la muraille qui donnent dans la ville ouvertes. Les sentinelles avaient abandonné leur poste pour se joindre à la fête. Soudain, au milieu des champs, éclate le cri de guerre des Perses. La foule affolée s'enfuit ou se fait massacrer. Cette nuit-là, Balthazar est tué et le palais royal incendié. Au point du jour, Cyrus est le nouveau maître de la ville et du Moyen-Orient. La statue qui était apparue dans le rêve de Nabuchodonosor avait une tête en or. Elle a été décapitée quand Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Ce roi avait été pesé et trouvé léger. Ayant rejeté l'Éternel, il fut écarté du pouvoir et jeté dans les oubliettes de l'histoire. Ce qui lui est arrivé me concerne. Si je suis évalué en fonction des normes de la parole de Dieu, je ne ferai pas le poids. L'apôtre Paul écrit « Tous sont péchés en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu ». Nous ne sommes pas faits 100% de laine vierge garantie de ne pas rétrécir, se froisser ou s'effilocher. Notre justice est très loin au-dessous de la barre divine. Mais je peux éviter d'entrer en procès avec mon Créateur si j'accepte le salut qu'il m'offre gratuitement en Jésus-Christ. Il faut y penser parce que demain, il se peut que votre sablier s'arrête et alors vous entrerez l'éternité figé dans un état de péché. Nous arrivons au chapitre 6 de Daniel, où nous est raconté le début du règne des Mèdes et des Perses, représenté par la poitrine et les bras en argent de la fameuse statue de Nabuchodonosor. Je commence à le lire. « Et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir impérial. » Verset 1. Les événements de ce chapitre ont lieu à Babylone. Comme je l'ai déjà dit, on a souvent mis en doute l'existence de Darius et contesté qu'il y ait eu un roi Mède à Babylone. Il est vrai que les historiens anciens ne mentionnent pas Darius et parlent de Cyrus comme le successeur immédiat de Balthazar. Cependant, sur les contrats commerciaux babyloniens rédigés en écriture cunéiforme, Cyrus est appelé « roi des pays », c'est-à-dire « empereur », l'an 1 et l'an 2 de son règne, et ce n'est qu'à partir de l'an 3 qu'il a pour titre « Roi des pays, roi de Babylone ». En fait, il était déjà devenu roi de Babylone 14 mois après la prise de la ville et suite au décès du général Gubaru, l'architecte de la victoire sur les Chaldéens. Tout porte à croire que Cyrus avait placé ce général sur le trône de cette ville prestigieuse et que ce dernier a choisi de se faire appeler Darius, un titre royal qui signifie « dominateur ». Il y a donc bien eu une royauté mède sur Babylone pendant un peu plus d'une année, mais qui dans l'histoire est arrondie à 2 ans. Ce n'est donc qu'à la 3e année de son règne impérial que Cyrus commence sa première année effective en tant que roi de Babylone. C'est aussi cette année-là qu'il a signé le décret autorisant les Juifs à rentrer chez eux. Ces détails sont un peu laborieux, j'en conviens, mais ils permettent aussi d'expliquer pourquoi certains historiens de l'Antiquité ont écrit que Cyrus a régné 7 ans alors que d'autres disent 9. Je continue maintenant à lire le texte. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts de l'empereur soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Versets 2 et 3. Un satrape est un haut fonctionnaire, gouverneur de province. Il est un peu comme le préfet d'un département. Ces personnages devaient rendre compte à un conseil de 3 administrateurs qui avaient la charge de s'assurer que rien, ni invasion militaire, ni évasion fiscale, ni fraude, ne cause de perte au royaume. On voit donc que même si Darius est un vassal de Cyrus, il a toute liberté d'agir comme bon lui semble et de faire à peu près ce qu'il veut. Ce détail est important pour la suite de l'histoire. Daniel, qui avait été le conseiller personnel de Nabucodonosor et peut-être même le numéro 2 de l'Empire, a semble-t-il été éclipsé du pouvoir sous les autres empereurs babyloniens jusqu'à l'incident de la main qui écrit toute seule sur le mur pendant la bamboula du roi Balthazar. Maintenant que l'administration de l'Empire et du royaume de Babylone est passée aux mains des Perses et des Mèdes, Daniel refait surface pour occuper à nouveau un très haut poste à responsabilité. Je continue le texte. Bientôt, Daniel se révéla plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi Darius songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Verset 4. Daniel a plus de 80 ans puisque c'est sa 66e année à Babylone en tant que déporté hébreu. Non seulement il est le plus âgé du triumvirat, mais aussi le plus sage et le plus intelligent. Cette constatation que fait Darius n'est pas nouvelle pour le lecteur puisque dès le début du livre, Daniel est béni de Dieu. Il devient vite le favori du roi qui reconnaît à sa juste valeur son expérience, sa capacité à diriger, son sens du devoir, sa réputation sans faille et ses révélations. Alors on peut imaginer que Darius se dit « J'ai la chance inouïe d'avoir à mon service quelqu'un qui sait tout et qui peut tout. Je vais donc lui confier la direction de tout le royaume et moi, je n'aurai plus qu'à aller à la pêche. » J'en rajoute peut-être, mais en tout cas, ce roi avait suffisamment de jugeote pour savoir tirer parti des ressources qu'offrait un homme comme Daniel, qui va donc être promu au poste de premier ministre, en quelque sorte. C'est évidemment l'Éternel qui avait donné à Daniel toutes ses facultés et qui l'avait placé dans une telle position afin qu'il contribue par son influence au retour des Juifs dans leur pays. Je continue le texte. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Verset 5. Comme souvent, le revers de la médaille de la bonne fortune, c'est la jalousie des autres. Les 2 collaborateurs de Daniel sont fous de rage de voir un juif accéder à la tête de l'État tandis qu'eux sont laissés sur la touche. Alors ils ameutent et embobinent les satrapes sous un prétexte bidon afin de monter avec eux un complot pour descendre Daniel en flammes. Mais ils ont un gros problème. Cet homme est d'une intégrité à toute épreuve. Il ne possède pas le moindre talon d'Achille. Ce que les ennemis de Daniel disent de lui est absolument remarquable, car il témoigne du fait que sa vie a toujours été impeccable. Moi, je me demande s'il existe encore aujourd'hui un seul politicien qui ait les mains aussi propres que Daniel. L'apôtre Paul écrit « Je m'applique sans cesse à garder une conscience irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes. » Et ailleurs il écrit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tâche au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. » Fin de citation. Cette attaque en règle contre Daniel n'est pas sans rappeler les efforts déployés par certains astrologues ou mages contre ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ou encore, le comportement des frères de Joseph qui, la haine au ventre, le vendirent en esclavage. Je continue le texte. « Ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce ne soit en relation avec la loi de son Dieu. » Verset 6. Après avoir fait le tour de la question, c'est-à-dire recherché en vain une raison valable pour rabaisser Daniel devant le roi, les conjurés sont bredouilles. Cependant, comme ils savent que Daniel vénère l'Éternel et le prie régulièrement, ils conçoivent un plan machiavélique. Je continue. Alors, ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi. Que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs, ont décidé à l'unanimité en conseil qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Verset 7. Les chefs du complot, c'est-à-dire les deux collaborateurs de Daniel, disent s'exprimer au nom de tous les hauts fonctionnaires du royaume, ce qui ne peut être qu'un mensonge, puisqu'il y a au moins Daniel qui n'est pas dans le coup. De plus, il n'est guère possible que tous les satrapes aient pu agir d'un commun accord aussi rapidement, car à cette époque, les communications étaient très lentes. Il n'y avait ni courrier électronique, ni téléphone, ni fax, et on se déplaçait à d'autres chameaux ou à pied. Le Poney Express fut conçu par les Romains. Tous ceux qui connaissaient le roi pour l'avoir fréquenté savaient très bien que, comme la plupart des potentats, il était vaniteux et incapable de résister à la flatterie. Alors, les conjurés vont utiliser cette faiblesse de caractère pour se débarrasser de Daniel. Leur plan est certes très cruel, mais bien joué quand même. La première fois que j'ai parlé de Darius, je l'ai comparé au corbeau de la fable de La Fontaine qui, étant appelé le phénix des hôtes de ces bois, par le renard, a laissé tomber le fromage qu'il tenait dans son bec afin de montrer sa belle voix. C'est suite à cette dure leçon qu'il a appris que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Comme le renard, les ministres de Darius l'ont caressé dans le sens du poil en lui disant que d'un commun accord, il pense qu'il a la stature d'un dieu. Le roi, très imbu de lui-même, avale ce bobard comme une lettre à la poste. Je continue le texte. « Maintenant, majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Versets 9 et 10. Une fois prodiguée, une loi médo-perse ne pouvait plus être modifiée même par le roi lui-même. Cette coutume remonte au fondateur de la dynastie Mède qui avait fait de lui-même un personnage sacré, vénéré, et dont toutes les paroles, surtout une fois consignées par écrit, avaient un caractère irrévocable. Darius accepte donc la proposition de ses ministres et signe, les yeux fermés ou presque, le parchemin qu'il place devant lui. Le premier round appartient aux conjurés qui sont parvenus à soutirer du roi une injonction faite sur mesure pour nuire à Daniel tout en faisant avancer leur carrière professionnelle. Du moins, c'est ce qu'ils croient, car ils oublient complètement que le seul Dieu véritable veille. Darius s'est facilement laissé berner par ses hauts fonctionnaires à cause de sa vanité, bien sûr, mais il faut aussi savoir que d'après les concepts religieux perses, le roi était révéré comme fils et image des dieux, tout comme chez les anciens Égyptiens. La proposition des ministres n'est donc pas aussi extravagante qu'elle apparaît au premier abord. De plus, et comme je l'ai déjà dit, les populations soumises n'étaient pas obligées d'adopter la religion du vainqueur, mais seulement d'accomplir un acte d'obéissance à l'égard du nouveau souverain. De toute façon, pour les païens, se prosterner devant une idole ou un homme divinisé n'était pas un problème parce que leurs allégeances religieuses étaient des plus superficielles. Seuls les Juifs ne pouvaient pas prier un autre Dieu que l'Éternel sans violer la loi de Moïse. Je continue le texte. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Verset 11. Daniel en a vu d'autres, et ce n'est pas une bande de blancs-becs minables qui va l'intimider. Pourtant, il aurait simplement pu ne pas prier pendant un mois, afin de ne pas violer le décret. Mais Daniel n'est pas taillé dans l'étoffe de compromis. Alors, il continue à invoquer l'Éternel comme il le fait d'habitude. Cette coutume de prier trois fois par jour remonte aux pratiques de certains hommes pieux de l'Ancien Testament, surtout lorsque le temple ne fonctionnait plus, et donc a priori pendant l'exil à Babylone. Lorsque David fut trahi, il a écrit « Le soir, le matin, à midi, je me répands en plainte et en gémissement. Il m'entendra !» Fin de citation. La chambre haute dans laquelle Daniel se retire était une construction légère élevée sur le toit des maisons. On y allait lorsque l'on désirait être tranquille, par exemple pour prier. Daniel connaissait évidemment bien les textes de Moïse, du juge Samuel, de David et de Salomon. Il semble prier conformément à une invocation de Salomon lors de la consécration du temple dans laquelle, parlant des Israélites emmenés captifs, le roi Salomon dit « S'ils t'adressent leurs supplications et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables », s'ils te prient en se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit en ton honneur, alors, depuis le ciel, la demeure où tu habites, veuille écouter leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aura commis contre toi et toutes ses fautes contre toi. Inspire à leurs vainqueurs qui les retiennent captifs de la compassion pour eux. » Fin de citation. Je continue le texte. Alors ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Verset 12. Il faut remarquer que les conjurés connaissaient bien les habitudes de prière de Daniel et savaient aussi que ce n'est pas un décret du roi qui allait l'influencer. Daniel était vraiment d'une intégrité à toute épreuve. Je continue. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction. « N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, sera jeté dans la fosse au lion ?»« Il en est bien ainsi, répondit le roi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Verset 13. Les conjurés ne s'attaquaient pas à Daniel parce qu'il était fidèle à l'Éternel son Dieu, mais par pure jalousie. Ils voulaient le faire tomber de sa haute position civile et politique afin de prendre sa place. Nabuchodonosor, la tête d'or de la statue, faisait ce qu'il voulait car il était au-dessus de toute loi. Mais sous le régime des Mèdes et des Perses, représentés par la poitrine et les bras en argent de la fameuse statue, le pouvoir royal s'est effrité, car le roi est obligé d'obéir à la loi. Je continue. Eh bien, reprirent-il, Daniel ne t'a pas obéi, majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. Verset 14. Les conjurés dénigrent Daniel devant Darius. Ils ne parlent pas de lui en tant que le plus haut fonctionnaire du royaume, mais comme l'un des déportés de Juda, membre d'un peuple étranger et soumis, afin de bien faire ressortir la gravité de sa désobéissance. Je continue. Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver, mais ses hommes se précipitèrent chez le roi et lui dirent « Sache, majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. » Versets 15 et 16. Darius apprécie et aime Daniel, mais ayant été manipulé par ses ministres qui l'ont coincé par son orgueil, il s'est pendu. Il comprend trop tard qu'on l'a roulé dans la farine. Dans la même journée, il est passé de prétendu dieu à insensé. Le roi hésite, car il veut sauver Daniel. Alors il va désespérément fouiller dans les lois pour voir s'il n'y aurait pas un quelconque moyen d'annuler le châtiment qu'ordonne le décret stupide qu'il a signé. Mais ses ministres tirent sur le nœud coulant en lui rappelant son devoir. Le roi a fait une erreur grosse comme une maison. Mais quand moi je pense aux bévues que j'ai faites, j'ai pas trop envie de lui jeter la pierre.